en dehors de la formation spirituelle exercée par les parents, et quand celle-ci est faite par une catéchiste, comment peut-elle croître alors que les programmes officiels du diocèse parlent si peu de la prière, et notamment de la messe, seulement à 10 ans. CM2, c'est bien tard, car à cet âge-là, ils ont déjà tellement assimilé. Entièrement d'accord. Il faudrait que les parents soient suffisamment forts, divinement forts, pour que ce soit eux qui disent non. Vous voyez, je crois que c'est très important. Pas en esprit révolutionnaire, pas du tout, mais dans un esprit d'unité profonde, de garder la foi. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ça anticipe, c'est très bien. Je parlais de la première formation par la présence, parce que je crois beaucoup à ça. Je crois que l'enfant a besoin d'une présence maternelle. Je sais très bien qu'il y a des cas où la mère ne peut pas être présente tout le temps, qu'elle soit au moins présente pendant la nuit. Vous savez, j'ai déjà dit ça, je crois, l'année dernière, mais c'est un exemple qui m'a tellement frappé que c'est bon de le rappeler. En Israël, les premières fois que j'étais en Israël, ça fait au moins 10 ans, 12 ans que j'y vais, il y avait les kibbutz religieux. Et dans les kibbutz religieux, on appliquait un socialisme religieux. Et le socialisme religieux est pire que tout. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Parce que l'attitude religieuse met un absolu là où il ne faut pas mettre d'absolu. C'est ce qui explique les fanatismes religieux. Parce qu'on met un absolu là où il ne faut pas mettre d'absolu. L'attitude religieuse implique un certain absolu. L'adoration est un absolu. Un seul Dieu, tu adoreras, c'est absolu. Hein. Et on doit n'adorer que Dieu. Donc ça, c'est un absolu. Mais quand ça s'applique à certaines choses relatives, c'est terrible. Alors dans ces kibbutz religieux, les enfants étaient confiés à l'État, représenté par des infirmières, de braves filles, hein, très zélées comme de bonnes infirmières, bien stylées. Responsables des enfants. Et on confiait les enfants 2 heures aux parents. Pas plus. Et surtout pas la nuit. C'était prescrit. J'ai écouté ce qu'ils disaient. Au bout de quelques années, je suis retourné. J'ai revisité de nouveau un kibbutz religieux. Parce que c'est les kibbutz religieux qu'il faut visiter, c'est pas les autres. Un kibbutz religieux. Bon, on m'a parlé. Très bien, je savais tout ça. C'était un Espagnol, du reste, qui faisait le topo. Et il a oublié de parler de l'éducation. Alors à la fin, il a dit, est-ce qu'il y a des questions? J'ai dit, oui, j'ai une question à poser. J'aimerais savoir, pour l'éducation des enfants, comment ça se passe actuellement. Alors il m'a regardé en souriant. J'étais en habit, donc il savait très bien qui j'étais. Il m'a regardé en souriant. Ah, vous avez raison, mon père, de me poser la question. Eh bien, vous allez être content. On a compris qu'il ne fallait pas séparer les enfants des parents. Et maintenant, on les laisse en famille jusqu'à 14 ans. Mais à 14 ans, vous savez bien que c'est les rivalités qui commencent. Et donc, on sépare les filles de leur mère et les garçons de leur père. Et on met, à ce moment-là, une espèce de pensionnat assez fort. Où ils vont, chez les parents, je ne sais plus si c'est tous les jours ou quelquefois, une fois par semaine. J'ai simplement dit, je reviendrai dans 7 ans. Alors il a souri là encore, parce qu'il y avait un fond avec lui, qu'on comprenait très bien les choses. Et vous voyez, la même histoire s'est faite en Russie, au début. Parce que je connaissais des religieux, il y avait Monseigneur Amodrou, qui était dominicain et qui a vécu toute la révolution à Moscou. Et même avant la Révolution, ils s'étaient trouvés en face de Lénine dans un car. Ils le connaissaient donc des visous. Et Mgr Amaudrou était là, donc rattaché à l'ambassade française. Et Mgr Amaudrou a vu toute la Révolution, donc il nous a raconté, revenant de Russie, comment au début, on voulait un socialisme intégral, même par rapport aux enfants. Et puis on s'est aperçu, et ça c'est très intéressant, que les enfants coupés de leurs parents, il y avait des inhibitions affectives très fortes qui avaient leurs répercussions sur le point de vue de l'intelligence. On le sait très bien ça. Quand un professeur de mathématiques est antipathique à un enfant, l'enfant n'a plus la bosse mathématique. Tout simplement parce qu'il y a un obstacle affectif qui empêche. Notre intelligence se développe dans la mesure où il y a un certain amour. Ça, c'est une évidence nette. On est intelligent pour ceux qu'on aime. C'est curieux, ça. Et on est bête pour ceux qu'on n'aime pas. Mais on est intelligent pour ceux qu'on aime. Pour ceux qu'on aime, on a tout de suite une espèce d'intelligence très développée. Quand on aime la vérité, on la trouve. Quand on l'aime pas, on la trouve jamais. Quand on aime la vérité, on sait où sont les points d'eau. Et on découvre ça. Parce que dès qu'il y a l'amour, il y a une espèce de poussée profonde en nous qui nous pousse à découvrir là où on doit aller. C'est pour ça qu'au point de vue, c'est vrai au point de vue humain. Ici, je ne me suis pas placé de ce point de vue psychologique. Mais c'est vrai au point de vue humain. C'est que la tendresse d'une mère et l'amour du père et la tendresse du père accompagnée de la mère, c'est quelque chose d'indispensable pour l'éveil de l'intelligence. La confiance. Ne pas dire trop vite, mon petit, tu es un imbécile, tu ne comprends rien. Parce que ça reste toute la vie, ça. Et on croit qu'on est un imbécile. Alors qu'on n'est pas un imbécile. Moi, je me souviendrai toute ma vie, au contraire, ce que me disait le bon vieux Père Mandonnet. Le Père Mandonnet était un bourguignon devenu dominicain, tout en restant bourguignon. Alors, il était dominicain. Et il était le grand professeur de ce temps de la philosophie médiévale. Il a terminé ses jours dans notre couvent de formation au Sautchoir. Il faisait la goutte de lait, ce qu'on appelait la goutte de lait au plan philosophique. C'était merveilleux, parce que soi-disant, il devait nous faire un cours de méthodologie historique. Comme il était un grand historien, il avait écrit un petit document de méthodologie historique. On a vu quatre lignes pendant toute l'année. Parce qu'au bout de 3 minutes, il enlevait ses lunettes, je le vois encore, et puis il disait « Mes petits-enfants, mes chers petits frères !» Puis il racontait des histoires, toutes les histoires de sa vie. C'était merveilleux, c'était le vieux grand-père qui racontait ces histoires. Ça nous apprenait bien plus que la méthodologie historique. Vous comprenez, la méthodologie historique, on n'avait qu'à lire le bouquin qu'il avait écrit. On n'y comprenait rien, mais ça fait rien. C'était de la méthodologie. Parce que chacun, comme on sait, quand on est un peu intelligent, on découvre sa propre méthode. Et la méthode des autres, c'est très bien, ça fait gagner du temps quelquefois. Mais on doit la redécouvrir soi-même. Et alors il nous a dit cette chose. Ça, je me souviendrai toute ma vie. Mes petits frères, dites-vous bien que vous êtes tous intelligents. Alors je vous dis ça pour vous. Vous êtes bien, vous êtes tous intelligents. Mais vous aurez des professeurs différents. Il y aura des professeurs qui auront la même forme d'intelligence que vous. Et alors, il dira, j'ai un génie dans ma classe. Dites-vous à ce moment-là que vous avez la même forme d'intelligence que votre professeur. Et puis il y a des professeurs qui diront, j'ai un imbécile dans ma classe, il ne comprend rien du tout. Dites-vous tout simplement, vous avez d'autres formes d'intelligence que lui. Et puis c'est tout, vous essayerez de découvrir le professeur qui vous trouvera génial. C'est très important. Parce qu'alors à ce moment-là, ça nous aide de trouver notre forme d'intelligence. Et ça, c'est tellement important pour nous. Je sais que c'est pas commode, parce que on a un métier, et on est bien obligé de continuer cela. Mais je crois que c'est très important de comprendre qu'on a tous une forme d'intelligence diverse. Il y n'y a pas qu'une seule manière d'être intelligent. L'artiste est intelligent, le poète est intelligent, le géomètre est intelligent, le philosophe est intelligent, le théologien doit être intelligent. Vous voyez bien, parce qu'il doit mettre son intelligence au service de sa foi. Mais évidemment, à côté, il y a des déviations. Et je crois qu'au point de vue humain, le grand principe de l'éducation, c'est de comprendre qu'à travers un climat affectif que seule la famille peut donner, les couveuses électriques au niveau éducatif, vous voyez ce que je veux dire, hein, les couveuses électriques, parce que ça se fait en série, les couveuses électriques au niveau pédagogique, au niveau éducation, ça ne remplacera jamais la famille. La famille a quelque chose d'unique. C'est voulu par Dieu. Ça fait partie de la sagesse de Dieu. Dieu a voulu que le petit enfant naisse dans une fragilité telle qu'il a besoin de sa mère, qu'il a besoin de son père, que la mère a besoin du père et que le père doit venir compléter. Et que surtout, dans la pédagogie et dans l'éducation, il n'y ait pas de division. Que les divisions se fassent derrière, dans les coulisses. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais pas devant les enfants. Jamais devant les enfants. Ça, il faudrait être impératif là-dessus. Les parents en face des enfants sont toujours unis dans la charité et dans l'amour. Et ils éduquent de la même manière et ils s'aident. Parce que dès qu'il y a une division devant les enfants, ça les perturbe. Parce que vous comprenez bien ce que représentent les parents pour les enfants. Quand ils sont tout petits, mais c'est énorme. C'est formidable. C'est quelque chose de si grand. Alors quand on voit qu'il y a des mauvaises ententes, des divisions, il y a une répercussion. Ceci au niveau éducatif. Tout simplement, créer un climat de chaleur et de force. Il ne faut pas que ce soit mièvre. Il faut la force. Il faut que l'autorité se manifeste dans l'amour. L'autorité paternelle surtout. Et l'autorité paternelle doit se manifester à l'intérieur d'un climat d'amour. Parce que l'enfant a besoin de la force, de l'autorité de son père. La mère, c'est une autorité très différente, hein, vous savez bien. Autant que possible, quand le père n'a pas d'autorité, la mère doit alors, à ce moment-là, exercer l'autorité, ce qui n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que le père exerce l'autorité. Et l'autorité, vous voyez, est toujours un peu ponctuelle, tandis que la mère est présente. La présence, ça appelle l'amour. Et l'amour appelle la présence. Les deux choses se tiennent. Il y a une immanence de la mère auprès du foyer qui est si importante. Le père est forcément un peu en dehors. Bon, s'il travaille à la maison, il doit respecter d'être toujours un peu en dehors. Parce que l'autorité ne peut pas être permanente. L'autorité doit se manifester toujours un peu de l'extérieur. Ce vieil adage grec, d'un philosophe grec, Anaxagore, qui dit « Segregatus », je vous le dis en latin, segregatus ut imperet. Il faut être séparé pour exercer l'autorité. Je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est très peu admis. Ça, c'est la vieille sagesse. Il faut être séparé pour exercer l'autorité. Et la mère ne peut pas être séparée. Elle est toujours conjointe. Elle est toujours liée. Parce qu'elle est très présente. Pour exercer l'autorité, il faut être un peu séparé. C'est l'intelligence. Vous voyez, l'intelligence est la compétence qui donne l'autorité. Et donc, on est toujours un peu séparé. Il y a toujours un peu une séparation d'autorité. Parce que l'intelligence, elle sépare toujours un peu. Ça peut pas être autrement. Il faut l'accepter. Et le père exerce l'autorité en sachant très bien qu'il doit l'exercer un peu d'une façon ponctuelle. Il n'intervient pas tout le temps. Il faut que le père ait beaucoup de patience. Oh là 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 là. La mère, c'est normal qu'elle soit patiente. Hein. Mais le père, il faut qu'il ait beaucoup de patience et qu'il exerce l'autorité de temps en temps, d'une manière ponctuelle. Faut surtout pas que soit identifiée autorité, l'exercice de l'autorité, vous voyez, je veux dire, et la présence du Père. Il faut que le Père puisse être présent dans l'immanence de la mère, comme une autorité toute simple, aimante, mais que de temps en temps il intervienne. Je crois que c'est très important, ça. Ça fait partie de la patience. Et ça fait partie qu'il ne faut pas user l'autorité. Si on use l'autorité, c'est fini. La mère, elle doit accepter d'être usée jusqu'au bout. Ça fait partie de sa vocation. Elle est usée jusqu'au bout, elle donne tout. C'est sa vocation. Tandis que le père n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Parce que s'il le fait, il n'y a plus d'autorité. Et les enfants ont besoin d'autorité. En 68, voyez bien, en 68, hein, c'est déjà vieux, mais pour moi, c'est pas vieux. En 68, j'ai vu des psychanalystes aller voir ce qui se passait en Sorbonne. Des psychanalystes freudiens, très freudiens, que je connaissais bien. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit, c'est de notre faute ce qui se passe. On a voulu supprimer l'autorité. Et voilà ce qui se passe. On a supprimé l'autorité du Père. Et en tuant l'autorité du Père, voilà ce qui se passe. Parce que si on ne s'affronte pas à l'autorité très vite, je dis bien très vite, l'enfant n'obéit plus. Et c'est l'obéissance qui nous fortifie. C'est l'obéissance qui nous maintient dans l'espérance. Quelqu'un qui n'obéit jamais est quelqu'un qui s'affaiblit. Et la plupart du temps, la fragilité qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup proviennent du fait qu'ils n'ont jamais obéi. C'est pas de leur faute, il y avait une abdication de l'autorité. On n'a jamais le droit d'abdiquer l'autorité. Jamais. Un père n'a jamais le droit d'abdiquer l'autorité. Il doit bien distinguer l'autorité et le pouvoir. Hein ? Petite distinction nécessaire. Le pouvoir devient très vite tyrannique, tandis que l'autorité, c'est un service. L'autorité se fait dans le sens de la finalité, de l'amour, tandis que le pouvoir, c'est dans le sens de l'efficacité. Quand vous êtes énervé, ça arrive. Quand vous êtes fatigué, quand il y a eu des échecs au bureau, ça a été très dur, vous revenez un peu énervé. Il suffit que le gosse fasse une bêtise devant vous pour qu'immédiatement votre pouvoir s'exerce, pas votre autorité. Alors c'est l'efficacité immédiate. L'autorité s'exerce toujours d'une façon paternelle, en vue du bien de l'autre. Tandis qu'au contraire, le pouvoir s'exerce très vite, très très vite, surtout si on est fragile. Surtout si on est fragile, vous voyez, en politique, hein, dès que le pouvoir devient fragile, devient tyrannique. Quand l'autorité est bien établie, le pouvoir s'exerce d'une façon très simple. Tandis que dès qu'il y a un pouvoir, une autorité qui devient fragile, les élections vont se passer, on ne sait pas ce qui va se passer, alors on sent très bien, alors à ce moment, le pouvoir devient beaucoup plus dur. C'est constant, ça. Et appliquons ça à nous-mêmes. Quand notre autorité est en jeu, quand on sent qu'il y a quelques petites mines bien placées, astucieusement placées, et qu'on nous critique un peu dans notre autorité, immédiatement, on devient plus dur. Et c'est le pouvoir qui passe devant. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Entre autorité et pouvoir, parce que on confond les deux. Ça, c'est une des choses qui me semble capitale au point de vue de l'éducation. Vous voyez, la mère, elle est avant tout celle qui porte. Elle continue de porter tout le temps. Et dans l'éducation, elle porte. Elle porte dans l'amour. Et elle coopère en portant dans l'amour. Et donc la mère, Elle représente la miséricorde. Ça, c'est vrai. La miséricorde est maternelle. Le père, il doit représenter l'autorité paternelle. Vous voyez, les deux sont très liés dans la vie. Hein, et les deux doivent toujours s'harmoniser. Et donc, que de temps en temps, le père soit là pour rappeler que la mère, c'est la miséricorde, mais c'est aussi l'autorité. La mère a autorité. Une autorité qui s'exerce dans la miséricorde. Mais elle a une autorité. Et le père a une autorité où l'aspect de l'ordre, de la justice, est plus net. Et ces deux autorités doivent coopérer dans l'éducation, dans l'unité. Tout ça dans un climat d'amour qui permet l'éveil de l'intelligence. Quand il s'agit de l'éveil de la foi, alors, c'est encore beaucoup plus fort, puisque la grâce ne détruit pas la nature, mais lui donne une surabondance, une plénitude. Je dirais, dans l'ordre de l'éducation chrétienne, donc dans l'éveil de la foi, de l'espérance et de l'amour, le climat d'amour est encore beaucoup plus important. Parce que la vie chrétienne est premièrement une vie d'amour. Jésus le dit. Aimer Dieu et aimer le prochain, c'est l'accomplissement plénier de la loi. C'est ça la nouvelle alliance. C'est une alliance d'amour. C'est une royauté d'amour. Tandis que, au point de vue humain, l'amour porte toujours la justice. Au point de vue divin, l'amour porte aussi la justice. La justice n'est pas supprimée, mais elle est tellement absorbée par l'amour que c'est l'amour qui est toujours premier. La foi ne peut s'éduquer que dans un climat d'amour. Mais la foi réclame l'éveil de l'intelligence. La foi implique tout un enseignement. Et alors je dirais que c'est le second moment de l'éveil de la foi. C'est de comprendre que notre foi chrétienne implique cette réceptivité, être la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu. Et il faut très vite comprendre que chez le petit, il y a cet éveil de l'intelligence pour que la foi soit une foi véritable. Notre foi chrétienne n'est pas une question de sentiment. Notre foi chrétienne, c'est une volonté d'aimer et une adhésion plénière de notre intelligence à la vérité révélée. Vous voyez, les deux grands enseignements de l'Église sur la foi. Concile d'Orange, Vatican I. Vatican I existe même après Vatican II. Vatican I. Et Vatican I, vous le savez, dit que la foi est une adhésion de l'intelligence. On l'oublie trop. C'est pourtant bien important. Dieu réclame que notre intelligence soit présente dans notre acte de foi. C'est pour ça que c'est si difficile pour quelqu'un qui a eu son intelligence fourvoyée par des idéologies athées. Je l'ai vu à Fribourg. J'avais régulièrement, chaque année, des étudiants qui venaient de l'autre côté et qui avait subi le marxisme pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Même si de fait, il s'était opposé intérieurement, il avait subi lavage de cerveau. Eh bien, je voyais qu'il fallait plusieurs années, et eux-mêmes me le disaient, pour arriver à comprendre un langage réaliste un langage d'une intelligence qui cherche la vérité. Et que lorsque notre intelligence est fourvoyée dans des idéologies athées, nous avons beaucoup de peine d'adhérer pleinement au mystère de la foi. Parce que dans chaque acte de foi, l'intelligence est présente. La foi ne nous coupe pas de l'intelligence. Au contraire, elle devrait être pour nous un facteur de développement de notre intelligence. Si nous étions vraiment croyants, on devrait être plus intelligents que les non-croyants. C'est ça qui est très curieux. Et ça, on n'y croit pas assez. On a beaucoup trop, vous voyez, fait une foi obéissante. Vous voyez dans quel sens je veux le dire. On dit, ah, c'est la foi, j'obéis. Mais non, saint Paul nous dit qu'on doit être toujours capable de justifier sa foi. Et on ne peut la justifier qu'au point de vue de l'intelligence. De montrer que ce que l'Église nous enseigne, c'est plus intelligent que toutes les philosophies. Ce que l'Église nous enseigne, c'est plus intelligent que ce que dit la science. Ça va plus loin. Parce que ce que dit l'Église regarde toujours l'homme. Le Saint-Père ne cesse de nous le rappeler. Hein, à sa manière. L'homme, pour lui, c'est quelque chose. Et quand il dit que la voix de l'Église, c'est l'homme, il nous montre justement que l'homme, c'est une intelligence éveillée, capable de choisir, et de choisir une fin humaine. Je crois que c'est très important pour nous de comprendre que tout acte de foi implique l'éveil de notre intelligence. Et que c'est là où l'intelligence, j'allais dire, touche son sommet. L'intelligence du croyant est une intelligence plus épanouie que une intelligence de pur philosophe. C'est une intelligence qui a une acuité, une pénétration qui va plus loin. Il est bien évident que la foi ne remplace pas la philosophie, ne remplace pas les mathématiques, ne remplace pas les sciences, ne remplace pas les techniques, c'est bien évident. Mais la foi saisit dans notre intelligence ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel. Vous voyez, l'acuité de notre intelligence, la perspicacité de notre intelligence, ce fait de, ce que je vous disais hier, de lire de l'intérieur. Alors, il faut comprendre que éduquer un enfant dans la foi, l'éveiller dans la foi, c'est l'éveiller à la parole de Dieu. Alors là, il faut que les parents connaissent un peu la parole de Dieu. Je vous dis, éduquer l'enfant, ça nous éduque. Éduquer l'enfant dans l'amour, ça nous oblige d'aimer. Éduquer l'enfant dans la parole de Dieu, ça nous oblige de connaître un peu mieux la parole de Dieu. Les enfants exigent les parents d'être plus intelligents. C'est merveilleux, du reste, ça. Vous savez, c'est le gosse, quand il pose des questions très très profondes, ce gosse de 4 ans qui pose à sa mère, qu'est-ce que c'est que l'éternité? C'est la mère qui m'a raconté ça. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? La pauvre maman. Et il pose ça juste au moment où on lui sert la soupe. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors sa mère, elle lui dit, hein, je comprends très bien, prends ta soupe, puis on verra. On verra ce que c'est que l'éternité après. Et le gosse tenace réfléchit, alors sa mère s'en va. Elle le laisse devant sa soupe. Puis elle revient au bout de quelques temps, elle voit qu'il est en train de prendre sa soupe. Alors elle lui dit, alors tu as trouvé? Ça, elle aurait peut-être mieux fait de ne pas le dire tout de suite. Vous savez rien, elle l'a dit. Alors, tu as trouvé? Alors, le gosse dit oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Le gosse prend son rond et dit, l'éternité, c'est ça, maman. Pas bête, hein, le gosse de 4 ans. La mère n'aurait pas inventé ça. L'éternité, c'est ça. Vous savez bien que c'est la figure très ancienne de l'éternité, de tous les Grecs. L'éternité, c'est le point de départ et le terme se touchent. Dans la succession, il y a succession, il y a le passé, le présent et le futur. Et nous vivons le présent. Et vous ne pouvez pas rattraper le passé. Vous le rattraperez dans l'éternité. Dans l'éternité, tout votre passé sera actuel. C'est extraordinaire, ça. Et dans l'éternité, nous assisterons au point de départ de la création. Hein? Quelque chose, ça. Sans cinéma. On assistera au point de départ de la création. On verra comment Dieu a créé. Et on verra ce que c'est que le Créateur. On verra cette chose extraordinaire. Toute l'histoire du monde dans l'éternité est actuelle. C'est fou l'éternité, hein? Et Dieu est éternel, c'est Dieu qui est l'éternel. Le point de départ est le terme. Il n'y a pas de succession. Et le gosse avait découvert ça, il n'y a pas de succession. Il n'a pas dit comme ça, c'est sûr. Mais le rond. C'est vrai que les enfants ont une intelligence de croyants beaucoup plus forte qu'on ne pense. Et je crois qu'on ne doit pas les décevoir. Parce que c'est très grave de décevoir un enfant. Vous voyez, les psychanalystes parlent tout le temps du refoulement affectif. Mais il y a des refoulements intellectuels qui sont beaucoup plus graves. Refouler l'intelligence, puisque c'est l'intelligence qui est en nous, est le principe de la vitalité. Nous sommes autonomes dans la mesure où notre intelligence se développe. Et dans tous les domaines où notre intelligence est développée, il y a une autonomie plus grande. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on doit aimer la recherche de la vérité. La vérité vous libérera. C'est la vérité qui nous libère. La théologie de la libération, ça devrait être la théologie de la vérité. C'est la vérité qui nous libère. Et dans les domaines où on a découvert un peu la vérité, on a une liberté extraordinaire. Et une liberté qui grandit. Notre corps s'affaiblit, c'est bien évident, on entend moins bien, on voit moins bien, notre corps devient de plus en plus une prison, mais intérieurement, on a une liberté toujours plus grande. Parce que la vérité, on la recherche tout le temps. C'est la vérité qui nous possède, et non pas nous qui possédons la vérité. Il ne faut jamais l'oublier. Et quand on est possédé par la vérité, alors à ce moment-là, c'est notre intelligence qui s'ouvre vers Dieu. Et notre intelligence qui respire. Vous voyez, l'oxygène de notre intelligence, c'est la vérité. Et quand on vit dans une culture où le mensonge est perpétuel, on n'a plus à respirer, et alors fatalement, on a un cancer de l'intelligence. Et je crois que les idéologies athées, c'est le cancer de l'intelligence. Ça se voit moins que le cancer, mais c'est très significatif, parce qu'on ne cherche plus la vérité. Et quand on ne recherche plus la vérité, on se paralyse, on se renferme sur soi, et on n'a plus d'oxygène. Alors petit à petit, on meurt. Eh bien, éveiller la foi, c'est éveiller une foi qui cherche la vérité. La vérité, c'est Jésus qui vient vers nous. Jésus le dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Et donc l'éveil de la foi chez l'enfant, c'est de lui faire comprendre petit à petit le grand mystère de Jésus. La mère doit parler très vite du mystère de Jésus. C'est la première révélation qui a été faite à Marie. Il y a Joseph, son nom sera Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. C'est le sauveur. Et Jésus, c'est Dieu qui vient vers nous. Et Jésus, c'est celui qui est tout le temps pour nous entièrement donné. Je crois que le rôle de la mère pour éveiller l'enfant à sa foi, c'est de lui raconter l'histoire de Jésus. En premier lieu, notre foi est une foi chrétienne. C'est Jésus qui nous éclaire. Et de montrer Jésus selon les moments de l'année liturgique. Quand on entre dans l'Avent, il faut montrer, rappeler que Dieu s'est fait tout petit pour nous. Tout petit, un enfant. Puis à Noël, puis après toute la vie liturgique, c'est merveilleux d'éduquer dans ce sens-là. Mais je crois qu'on doit parler à l'enfant de Jésus. On doit l'envelopper de ce grand mystère. Les psychologues diront « Ah, il fera un mythe ». Mais l'enfant a besoin d'images. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Les psychologues reconnaissent que l'enfant, avant qu'il va à l'école, a une espèce de possibilité d'invention énorme. Dès qu'il va à l'école, cette invention diminue. Vous savez bien, les dessins d'enfants. C'est prodigieux, les dessins d'enfants. Eh bien, il faudrait, si on était une mère éducatrice, laisser les enfants dessiner et à partir des dessins, montrer le mystère de Jésus. Entrer dans leur imagerie, dans leur monde mythique. Ce monde mythique, c'est le monde de l'imaginaire. Dépasser cela pour découvrir la réalité. Chez un enfant, l'imagination, elle demande à être une voie d'accès vis-à-vis de l'amour, une voie d'accès vis-à-vis du mystère. Le mystère de Dieu est plus présent que le mystère de la famille. Et il a la foi, il a reçu la foi au baptême. Et donc, il a une capacité prodigieuse d'adhérer à cette présence invisible. Vous voyez, des choses qui me frappent beaucoup. Je prends un exemple pour que vous compreniez. La mort. La mort, c'est toujours un très grand mystère. Et la mort dans la vie religieuse, puisque dans la communauté Saint-Jean, on a eu le premier qui est mort à 40 ans d'un cancer qui s'est déclaré foudroyant. Puisqu'on n'a pas vu le premier moment du cancer. Ça arrive. Je crois que c'était un cancer de la peau. On ne l'a pas vu. On a vu que lorsque ça s'est généralisé, alors il y avait des ganglions. Et en 2 mois et demi, à partir du moment où on a décelé, 2 mois et demi après, il mourait, à 40 ans. Ça va très vite à cet âge-là. Et c'était pour moi particulièrement, j'allais dire, sensible, puisque c'était quelqu'un de Fribourg que j'avais connu quand il était gosse et qu'il avait 1 an. Et forcément, quand on vit la mort dans une famille religieuse, on la vit avec une très grande intensité. C'est normal, surtout le premier, je dirais, le premier qui va au ciel de la famille. Ça fait un accrochage dans le ciel. La famille se prolonge jusqu'au ciel. Et donc, d'une certaine manière, elle a touché sa finalité. C'est ce que je me suis dit, maintenant je peux disparaître, la famille touche le ciel, ça y est. Et c'est vrai pour toute famille humaine, mais dans la famille humaine, c'est plus pénible. Dans la famille religieuse, ça va de soi, après tout. Tout religieux est marqué au rouge pour aller à l'abattoir. Ça fait partie de la vie religieuse. C'est normal. Ça ne se dit pas le jour de la profession, mais c'est quand même ça le vécu, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, c'est ça. On est totalement donné. C'est ce que je leur ai dit du reste. On a vécu ça avec beaucoup d'intensité et une très grande force et une très grande joie. Grâce à Dieu, à Rimont, on a un petit cimetière, je veux dire, qui est tout près. Et donc, on a notre cimetière. Et alors, on a pu faire ça en dehors des croque-morts. Et on leur a dit, venez pas, on n'a pas besoin de vous, nous nous débrouillerons seuls. Et on a pu refaire vraiment cet enterrement tout à fait religieux. Au soir, crépuscule, enterré, dans la terre. On a hésité de faire ce que les Chartreux font, on ne l'a pas fait tout de suite, mais on le fera pour le suivant. C'est-à-dire sans cercueil. C'est ce que font les Chartreux. Et c'est tellement plus vrai pour la vie religieuse. enterré à même la terre, avec un, évidemment, enveloppé de blanc, comme Jésus, un linceul. Et alors, ce qui était très curieux, c'est qu'il y avait un troupeau de moutons qui est là. Évidemment, le soir, les moutons sont particulièrement libres, n'est-ce pas, avant de se coucher. Alors, ils nous ont vus descendre, ils sont tous venus, et puis comme un seul homme, comme un seul homme, ils se sont tous arrêtés, ils ont été comme ça, ils ont regardé. C'était impressionnant, Dieu. C'est des choses extraordinaires. On serait au Moyen-Âge, on dirait, voyez le petit miracle, le signe qu'il est bien au ciel. Ça, c'est, la nature est là pour parler avec... Et c'est vrai, une espèce d'unité très impressionnante. Eh bien, la mort pour un enfant, c'est très curieux. C'est la chose la plus naturelle. Un enfant qui croit, il est au ciel. Et c'est vrai, pour un religieux, c'est aussi très naturel, parce qu'un religieux, il redevient un peu comme un enfant. C'est merveilleux. Je crois que l'enfant a une capacité, avant d'être pollué par toutes les idéologies contemporaines, un enfant qui est encore, je dirais, dépendant de ses parents qui ont la foi et qui essaient de vivre leur vie chrétienne, un enfant a une capacité d'adhérer au mystère d'une manière étonnante. Il ne faut surtout pas perdre ça. Ce moment très profond de l'enfant qui adhère au mystère, il faut à ce moment-là parler de Jésus, lui apprendre à faire le signe de la croix, lui apprendre à adorer. Il faut adorer avec l'enfant. C'est comme ça que Dieu a éduqué son peuple. Premier commandement, un seul Dieu, tu adoreras. Et l'enfant est beaucoup plus capable d'adorer qu'on ne le pense. Et adorer avec lui, se mettre à genoux avec lui, se prostrer avec lui. L'adoration, le geste qui reconnaît que Dieu est tout. Et adorer Jésus. Et reconnaître que Jésus, c'est Dieu qui vient vers nous et raconter l'histoire de Jésus. Ça obligera les mères de reprendre l'évangile et de lire l'évangile, mais adapté à l'enfant. Il y a des petits catéchismes merveilleux pour ça aujourd'hui. Et qui nous aident à comprendre et à transmettre. Si on a besoin d'un catéchisme, une mère devrait sortir ça de son cœur. Tout de suite, en transposant immédiatement, on a la grâce pour ça. Il faut parler de Jésus et il faut très vite montrer Jésus qui nous enseigne et qui est tout proche de nous et qui nous apprend à aimer, qui nous apprend à adorer, qui nous apprend à regarder ceux qui sont proches de nous, petits frères, petites sœurs, pour les aimer. Arriver à faire que ce soit dans la vie et s'aider, quand on connaît un peu ses enfants, du tempérament de chacun et de l'intelligence et de la forme d'intelligence de chacun. Si l'un est plus poète, qu'on n'hésite pas de montrer tout cet aspect poétique dans l'enseignement du Christ. Si l'un est plus rationnel, qu'on montre les exigences profondes de la foi. La première éducation de la foi, c'est la famille qui l'a fait. Et c'est la première, ce sont les marques premières. Je crois qu'un enfant qui a reçu de sa mère et de son père une première éducation chrétienne au point de vue de la foi, il y a quelque chose qui reste toute sa vie. Même s'il quitte, ça reviendra au dernier moment. L'alpha et l'oméga, ça se rejoint. Et sur son lit de mort, il se rappellera ça. J'en suis sûr, ça. C'est pour ça que les mères qui ont donné le meilleur de leur cœur aux petits, et puis quand il grandit, elles voient qu'il quitte tout. Ça arrive, hélas, aujourd'hui, constamment. Il ne faut pas qu'elles s'inquiètent. Oh, il faut qu'elles continuent de prier, c'est bien évident. Mais elles ont donné le meilleur de leur cœur. Et ça, c'est très important, le meilleur de leur cœur. Elles le donnent à leur époux et à l'enfant dans son éducation de foi, d'espérance. raconter quelques histoires de Jésus, mais un petit peu suivre le rite, je crois, de la liturgie. Je crois que c'est très beau. C'est ça que ça doit nous faire aider. Vous voyez, et à propos de la naissance de Jésus, on peut très bien rappeler d'autres naissances qui sont dans la Bible. Je me souviens, parce que ça fait partie de certains moments qui ont été particulièrement importants dans ma vie apostolique. Je connaissais deux sœurs. L'une avait épousé quelqu'un qui croyait, pratiquait pas beaucoup, mais croyait, un philosophe. L'autre avait épousé quelqu'un qui était vraiment athée. Et les deux sœurs ont eu un enfant à 8 jours de distance. Celle qui avait son mari qui croyait m'ont demandé de le baptiser. J'ai dit oui, je les connaissais bien, c'est des amis. Et puis, la sœur m'a dit, est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour ma sœur? Parce que ma sœur, elle ne peut pas faire baptiser son enfant, je sais que dans le fond de son cœur c'est dur. Mais comme le mari s'oppose violemment, elle ne le demandera pas, et elle a raison, il ne faut pas faire un drame. Alors est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose, le jour du baptême, est-ce qu'on ne pourrait pas les inviter, non pas au baptême, ils ne viendront pas, mais à la réception après, qu'on puisse boire le champagne ensemble. Et est-ce que vous ne pourriez pas dire quelque chose à ce moment-là? On sera nombreux, on sera 60. Dites-vous bien, parmi les 60, il y aura les 2/3 non-chrétiens, avec des idées d'un libéralisme absolu, très lié à la franc-maçonnerie. Il y aura un des vieux, des grands-grands de la franc-maçonnerie. J'ai dit oui, je ne demande pas mieux. Alors il y avait une partie intime à l'église, puis après, je suppliais le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut dire, vous comprenez? J'avais pensé avant, c'est sûr. Je me suis dit, il faut raconter, il faut lire le passage de la naissance du petit Moïse. D'une nativité extraordinaire. Vous voyez, prendre toutes les naissances. Et de façon générale, faire ça. Toute l'ancienne alliance est faite pour la nouvelle alliance. Et donc, tous les faits du Christ, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Alors j'ai lu ce texte, qui est très très beau, parce qu'il y a une émotion dans l'Ancienne Alliance, il y a une émotion bien plus grande que la Nouvelle Alliance, c'est la foi, la béatitude de la foi, c'est quelquefois un peu raide. Tandis que l'Ancienne Alliance a cet avantage merveilleux d'être une propédeutique pour la foi. Donc quelque chose qui est très proche de notre psychologie, et qui nous aide beaucoup. C'est cette manière de raconter la naissance du petit Moïse d'une beauté. Alors j'ai glosé un peu. Je savais très bien qui était devant moi pour montrer ce que c'est que la naissance. Dans un grand texte que tout le monde doit respecter, Moïse, tout le monde le respecte. Le mont Sinaï, tout le monde le respecte. La croix, c'est différent. Mais le mont Sinaï, tout le monde. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est là où l'œcuménisme se fait. C'est sur le mont Sinaï, avec le désert qui entoure. Parce que le désert est la grande préparation œcuménique, contrairement à ce qu'on fait, on parle beaucoup trop. C'est le désert qui entoure le mont Sinaï. Et c'est ce désert qui mène à l'adoration. Et c'est l'adoration qui fait l'œcuménisme. Le Saint-Père l'a bien montré en convoquant tous ceux qui croyaient en Dieu et dans le Créateur, de pouvoir se regrouper ensemble, à Assise. Si je lui avais donné un conseil, j'aurais dit au mont Sinaï. Et vous voyez ce que c'est le mont Sinaï, c'est quand même quelque chose. Assise, c'est très très beau, c'est merveilleux, c'est intime, c'est merveilleux, mais pour ceux qui sont extrinsèques, ça dit moins. L'adoration a quelque chose de cosmique, toujours. On adore avec tout l'univers, puisque les petits oiseaux, on les prend dans notre adoration. On prend les orages, la grêle, la pluie. Vous voyez, ce grand cantique hein, qu'on aime beaucoup, qui montre que tout doit glorifier Dieu par l'adoration de l'homme. Et c'est l'homme qui ramène tout. J'ai pris ce texte, je l'ai lu et essayé de comprendre. C'est extraordinaire. Il y avait un silence plus profond que dans les églises. Hein. Ils ne savaient pas qu'il y aurait ça. Hein. Mais je ne les ai pas du tout. Hein. Ils étaient tous d'accord. Parce que tous reconnaissaient que la naissance était quelque chose de très grand. Alors j'ai salué le très grand franc-maçon qui était là, qui était médecin et accoucheur, qui avait été celui qui avait été le médecin de famille, parce que c'est le médecin de famille. Alors il m'a simplement saluant avec beaucoup de respect, beaucoup de complicité tacite, vous voyez. Alors il m'a simplement dit, j'ai eu la première manche, vous avez eu la seconde. Alors il dit oui, et la seconde touche l'éternité. Et c'est vrai, il y a quelque chose de très profond, vous voyez, à redécouvrir aujourd'hui. C'est ça qui est très beau. Dans cette crise que nous avons tous connue, que nous subissons encore les conséquences, il y a une possibilité merveilleuse de rattraper toutes les bonnes volontés. Et la première bonne volonté qu'on doit prendre, c'est celle du tout petit enfant, qui est plein de bonne volonté. Un enfant est plein de bonne volonté pour Dieu. Et Dieu est plus proche de lui que quelquefois du cœur de sa mère. Alors on doit avoir ce courage dans la mesure où on le peut. Ça demande un petit effort. Mais c'est beau, ça paie merveilleusement. Être intelligent pour le Christ. Et si on est intelligent pour le Christ, on va être intelligent pour les petits. Et leur faire comprendre cela. Moi, je me souviens, ça fait partie de mes souvenirs de jeunesse. Je vous ai dit, étant du nord de la France, on a connu en 14 l'invasion. Et ma mère était restée seule avec 9 enfants. Et la 10e est née quelques mois après le départ de mon père. Mon père étant officier de réserve, aurait pu casser son grade d'officier, parce qu'il avait 9 enfants, il a jugé en conscience qu'il ne devait pas le faire, par amour pour la patrie. C'est beau. Il ne savait pas que ça allait durer si longtemps. Et alors, on avait le soir, il n'y avait pas de lampe, pas d'électricité, vous comprenez, c'était le feu de bois, avec des petites bougies. Notre mère qui nous racontait l'histoire sainte. L'histoire sainte, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et qui tout le temps nous montrait les références avec Jésus. C'était Jésus dont elle parlait. Entendre parler, je sais bien qu'on ne peut pas faire ça, hein, c'est des circonstances tout à fait particulières. Mais c'était merveilleux. Des soirées familiales passées à la lumière d'un feu de bois pour nous parler de Jésus. Là, on comprend ce que c'est que la tradition. La famille, c'est le fondement de la tradition. Ce n'est pas les curés qui font la tradition. C'est la famille. C'est la sainte famille qui fait le fondement de la tradition. C'est pour ça qu'on ne nous dit rien de la sainte famille. On n'en sait rien. Je ne sais pas comment Joseph gagnait sa vie. Et je ne sais pas s'il arrivait tous les mois à arriver à joindre. Je crois, parce que c'est un bon artisan, il travaillait bien. On ne sait pas. C'est le silence. La tradition, c'est ça. Et la famille, elle est porteuse de la tradition. Et c'est dans la tradition, dans l'amour, que se transmet le mieux le regard de Jésus. Les gestes du Christ. La présence de Jésus. Je crois ça très important, c'est capital, que la famille transmette cette présence de Jésus, ce regard de Jésus, les paroles qu'on doit répéter. Vous voyez, le grand discours de Jésus sur la montagne, hein, les béatitudes. Un enfant est bien plus capable de comprendre ce que c'est que les béatitudes qu'une grande personne. Comprendre ce que c'est, comment Jésus montre ça. Ce que je vous disais ce matin, le miracle de la multiplication des pains. C'est quand même tellement beau ça. De voir Jésus qui est là et qui a pitié de cette foule, qui a pitié de nous et qui est là pour faire un geste d'amour. Les grands gestes de Jésus. Et puis le mystère de la croix. On doit vite parler de la croix à l'enfant. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. On doit très vite parler de la croix, puisque la croix est notre sagesse. Et montrer que c'est à la croix que Jésus montre tout son amour. L'enfant n'a pas peur de la croix. Si on montre que la croix c'est un don d'amour, et que la croix c'est le don total de Jésus pour nous, et qu'il est mort pour chacun d'entre nous, et que la croix c'est la croix glorieuse, c'est la croix porteuse de vie, c'est la croix victorieuse de la mort, victorieuse de toutes les souffrances. Je me souviens d'une mère qui me racontait que sa petite fille était très très jalouse. Très jalouse de toutes les autres, de toutes les aînées. Et alors elle m'avait dit, comment enlever la jalousie? Alors elle avait trouvé en tant que mère cette manière de dire la jalousie. Mais quand on se laisse prendre par la jalousie, on blesse le cœur de Jésus. C'est la couronne d'épines. Alors elle avait expliqué un peu. Et puis, sa fille ne parle plus de la jalousie. Au bout de 6 mois, elle dit quand même, c'est curieux. Alors elle lui dit, mais tu n'es plus jalouse du tout, tu n'en parles plus. L'enfant qui avait 4 ans, je crois 4 ou 5 ans, a dit simplement à sa mère, maman, tu m'as dit que ça blessait le cœur de Jésus. Alors comment veux-tu que je le fasse encore? Vous voyez, là, on éduque la volonté. Et on éduque la volonté très jeune, lutter par rapport à ses défauts. Et on ne peut pas lutter seul, c'est impossible. On lutte avec Jésus, on lutte avec l'Esprit Saint. Et on le sait très bien, si j'écoutais tout ce que vous pouvez entendre de vos enfants, je suis persuadé qu'il y aurait un florilège merveilleux, ce qu'il faudrait faire peut-être de temps en temps. Moi je crois que quand on est en face de nombreuses familles chrétiennes, dire tout simplement, chacun, il y aura un petit livre merveilleux, vous savez, à faire, positif, pour montrer ce que c'est que l'éducation de la foi, avec des exemples. Vous voyez, il faudrait faire ça. Réfléchissez sur l'éducation que vous donnez à vos enfants par rapport à la foi, et notez une page, deux pages, avec les détails, comment l'enfant s'est éveillé. Si vous faisiez ça toutes, on aurait vite un petit florilège, mais très simple, de l'éducation des enfants au point de vue de la foi. Moi, je crois qu'on devrait le faire. Et ça sortirait de vous, ça ne sortirait pas des théologiens. Ce serait mieux. Ça sortirait de vous et le théologien ferait un petit commentaire. Tout simple. L'éveil de la foi, l'amour, la parole de Jésus, la présence de Jésus, l'amour, la présence de Jésus, la parole de Jésus, les gestes de Jésus. On arrive comme ça, l'éveil de la foi. On reprendrait, vous voyez, au point de vue chrétien et au point de vue familial, cet éveil profond de la foi. Ce serait quelque chose de merveilleux. Et je crois que ça porterait des fruits, ça. Une famille chrétienne, aujourd'hui, elle doit porter les autres familles. Et elle doit donner ce témoignage. Et donner ce témoignage, c'est nous qui pouvons faire ça, ensemble. Réfléchissez-y, peut-être que c'est aujourd'hui la fête du Christ roi, c'est peut-être votre manière de témoigner que Jésus est roi de votre foyer. En voyant tel ou tel fait, mais des faits réels, enfin, il ne faut pas les inventer. Hein. Ce que je vous ai cité, c'est des faits réels, tout le temps. Parce que je crois que c'est très important, c'est bien plus fort un fait réel que ce qu'on invente. Hein. Parce que ça jaillit directement de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint se sert des enfants, d'une façon très étonnante aujourd'hui. Dans la mesure où les théologiens se taisent, L'Esprit Saint se sert des enfants. Alors vous voyez, ce serait intitulé « Les théologiens se taisent, les enfants parlent ». Et ils parlent au sein de la famille. Et au sein de la famille, les enfants parlent. Et ce serait bon pour chacun d'entre vous de réfléchir là-dessus. Si vous en avez 10 pages, vous en donnez 10 pages. Un enfant de 5 ans, un enfant de 4 ans, un enfant de 3 ans. Et mettez le petit nom. Ce serait merveilleux, ça. Je suis persuadé que si on faisait ça, ça porterait beaucoup. Et ça montrerait ce que c'est que l'éveil de la foi au sein de la famille. Demandez à l'Esprit Saint si vous ne devez pas faire ça. Et je suis persuadé que Marie recueillerait ça avec beaucoup d'amour. Marie Santis, elle recueillerait ça avec beaucoup d'amour. Elle ferait un petit livre des recueils de l'éveil de la foi de toutes les familles. Ce serait très beau. Ce serait quelque chose de très très grand. Donner un témoignage. 50 familles parlent. Par la bouche des enfants. Parce que c'est par la bouche des enfants. Aujourd'hui, il n'y a qu'eux qu'on entend. Et on les entend. Et je crois que ça, c'est bon comme renouveau. Et on enlèverait ce livre au Saint-Père. Il serait très touché. C'est vrai, on doit parler de Jésus, on doit parler du pape. Vous voyez, on relit l'Ancien Testament, qui éclaire toute la vieille alliance, l'histoire sainte, qui éclaire Jésus, et le pape qui donne une présence visible, le doux vicaire du Christ. Et c'est pour ça qu'on l'aime plus. C'est pour ça qu'on n'est plus porté vers lui. Et c'est pour ça que les enfants ont un tel amour pour le pape. Quelquefois, les évêques disent, mais comment se fait-il qu'ils aiment plus le pape que nous alors qu'on est plus proche? Et oui, oui, oui. Il y a une proximité plus grande. Mystérieuse, c'est le mystère. Parce que le pape, il est plus proche de Jésus. Surtout quand on a un pape comme le nôtre, qui aime les enfants. Comme Jésus. Alors demandez à la Vierge Marie si on ne doit pas faire quelque chose comme ça. Si ce n'est pas une manière pour nous d'être témoins d'une chose cachée, mais d'une chose merveilleuse, l'éveil de la foi chez les enfants. La proximité de Jésus, le regard qu'ils ont de Jésus, qui n'est pas le nôtre, qui a une fraîcheur unique.